Laudetur Jesus Christus.
Nouveau sommet, échange de prisonniers, de corps, de soldats tués. Les pourparlers d'Istanbul entre négociateurs russes et ukrainiens se sont achevés. Nous revenons sur les principales annonces. Un nouveau président en Pologne, tour d'horizon des réactions dans les chancelleries européennes alors que Varsovie assume pour un mois encore la présidence tournante du Conseil de l'UE. Nous irons à Bruxelles. Une Corée du Sud très polarisée vote en une sortie de crise politique, veille de présidentielle dans le pays où la participation est très attendues. Dans ce journal, l'indéfectible soutien de Léon XIV aux familles, première cellule sociale et ecclésiale, le pape s'adressait aux participants d'un colloque consacré à l'évangélisation auprès des familles.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonsoir. Des délégations russes et ukrainiennes se sont donc à nouveau rencontrées ce lundi à Istanbul en Turquie, réunion dans la perspective de mettre fin au conflit déclenché par l'assaut russe contre l'Ukraine en février 2022. Ces pourparlers intervenaient aussi au lendemain de l'une des attaques ukrainiennes les plus impressionnantes jamais menées sur le sol russe. Un vaste assaut coordonné de drones qui a détruit ou endommagé plusieurs dizaines d'avions. Dans un tel contexte, qu'est-il ressorti de ces nouvelles négociations? Le point avec Anand Loer, notre correspondante en Turquie.
C'est peut-être le ministère turc des Affaires étrangères qui a le mieux résumé le bilan de la rencontre. Les discussions n'ont pas, je le cite, produit de résultats négatifs. Façon de dire que ces échanges ne changeront rien dans l'immédiat sur le terrain de la guerre. Une avancée concrète toutefois sur le terrain humanitaire, Kiev et Moscou préparent un nouvel échange de prisonniers. Il doit concerner tous les prisonniers grièvement blessés ou âgés de moins de 25 ans. Les deux pays ont aussi accepté d'échanger les corps de 6000 soldats morts au combat dans chaque camp. La délégation ukrainienne a par ailleurs remis une liste de centaines d'enfants ukrainiens déplacés en Russie et dont elle demande le retour. Ce qui ressort clairement de ces pourparlers, c'est que les deux camps restent divisés à l'égard d'un cessez-le-feu. L'Ukraine veut un arrêt des combats d'au moins 30 jours et sans condition, comme un préalable aux négociations sur un accord de paix. La Russie dit vouloir discuter d'abord de sujets de fond tels que le sort de certains territoires, mais se dit prête à des cessez-le-feu temporaires et localisés dans certaines régions. La partie ukrainienne a proposé une nouvelle rencontre d'ici la fin du mois, entre le 20 et le 30 juin. À Ankara, Anand Loer pour Radio Vatican.
Le président ukrainien, lui, se trouve en Lituanie, à Vilnius. Ce lundi, il participe à un sommet réunissant des dirigeants du flanc oriental de l'OTAN, rencontre préparant le futur sommet de l'Alliance Atlantique prévu à La Haye à la fin du mois, auquel Volodymyr Zelensky demande à être invité. Dans les capitales ou les institutions européennes ainsi qu'à l'OTAN, le flot de réactions ne tarit pas depuis la confirmation officielle de la victoire de Karol Nawrocki en Pologne. Le score serré de ce second tour a tenu les Européens en haleine jusqu'à ce lundi matin. Tour d'horizon des principales réactions, c'est depuis Bruxelles avec Pierre Benazé.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se dit confiante dans la poursuite d'une bonne coopération avec la Pologne. Mais les réactions enthousiastes du Hongrois Viktor Orban ou de la Française Marine Le Pen montrent à l'envi que les relations entre Varsovie et Bruxelles vont se compliquer. Le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, appelle Karol Nawrocki à respecter l'état de droit. Il reflète ainsi les préoccupations des Européens, eux qui voyaient d'un bon œil les efforts de Donald Tusk pour remettre la Pologne en ligne avec les valeurs européennes. De son côté, le secrétaire général de l'OTAN pointe la nécessité de continuer à soutenir l'Ukraine. Marc Rutte.
Bien entendu, j'ai suivi les élections présidentielles et je tiens à féliciter le vainqueur. Je me réjouis de travailler ensemble sur toutes les questions et de faire en sorte qu'avec la Pologne, l'OTAN devienne encore plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Vous savez, en ce qui concerne l'Ukraine, les 32 alliés se sont clairement engagés à ce que l'Ukraine entre dans l'OTAN de manière irréversible, ce qui constitue un engagement à long terme de leur part.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky espère, je cite, une coopération fructueuse avec la Pologne, mais le nouveau président polonais a par exemple jeté des doutes sur sa volonté de soutenir les réfugiés ukrainiens. Karol Nawrocki se pose en admirateur de Donald Trump et pour l'instant les Européens ne peuvent donc qu'espérer voir la Pologne rester en pointe face à la Russie. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
L'Iran n'a rien à cacher sur son programme nucléaire qui demeure pacifique. L'assurance est de mise au Caire de la part du chef de la diplomatie iranienne. Il était aux côtés de son homologue égyptien ainsi que du président de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour une réunion tripartite AIEA qui exhortait il y a quelques jours la République islamique à plus de transparence. L'Iran, dont l'archevêque latin de la capitale, le cardinal Dominique Mathieu, était reçu par le pape ce lundi. Le cardinal d'origine belge a récemment pris possession de son église à Rome, c'était le 23 mai dernier. Le secrétaire général de l'ONU appelle à une enquête indépendante à Gaza. Des tirs y ont fait au moins 31 morts ce dimanche matin près d'un centre d'aide humanitaire dans le gouvernorat de Rafah, au sud de l'enclave. Antonio Guterres se dit consterné, estime inacceptable que l'on risque sa vie pour de la nourriture. Après 6 mois d'arrêt, réouverture ce lundi de la bourse de Damas. 14 entreprises sur les 28 cotées ont repris leur activité de marché. L'occasion pour le gouvernement syrien de miser sur un doublement des investissements d'ici la fin de l'été. Tourner la page, c'est le souhait des électeurs sud-coréens qui se rendent aux urnes ce mardi pour élire un nouveau président. Au terme d'une bataille procédurale acharnée, l'ancien président Yoon avait été destitué le 4 avril. Son parti, le Parti du pouvoir au peuple, désormais emmené par l'ancien ministre du Travail Kim Moon-soo, est donné perdant face au parti démocrate de Lee Jae-myung qui, sauf surprise, devrait l'emporter. Le taux de participation à cette élection s'annonce déjà historique, le signe d'un sursaut démocratique au sein de l'électorat. C'est ce qu'estime Barthélémy Courmont, maître de conférence à l'Université catholique de Lille.
Il semblerait que cette élection va être marquée par une très forte mobilisation électorale, ce qui est, à mon sens, un phénomène tout à fait intéressant, puisque un petit peu à la manière d'autres démocraties dans la région, et je pense notamment au Japon, on notait ces dernières années une forme d'affaiblissement de la mobilisation populaire pour les élections, avec un taux de participation qui était en baisse constante. Et là, le contexte, et donc la crainte chez les Coréens de se retrouver avec des dirigeants mal élus et qui feraient des choses tout à fait irrationnelles comme cette loi martiale, je pense à mobiliser les Coréens en masse. Donc c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et donc on voit que la démocratie et la mobilisation démocratique n'est pas si malade que cela en Corée du Sud. Au contraire, je pense qu'elle a été reboostée par les événements récents.
Un propos recueilli par Alexandra Sirgan. Et à l'aube de cette présidentielle, les évêques sud-coréens souhaitent un président qui serve le peuple, qui intègre et rassemble, apporte la paix et enfin protège la maison commune. De maison commune, il sera question lundi prochain sur la Riviera de Nice en France du 9 au 13 juin. 70 dirigeants du monde sont attendus pour la 3e conférence mondiale de l'ONU dédiée aux océans. Depuis la baie des Anges, beaucoup espèrent voir émerger de l'argent et des actions concrètes pour protéger la vie marine. Les océans, enjeu de défense et de sécurité, majeur bien sûr dans le Pacifique, mais aussi l'océan Indien. Ainsi, l'Australie, déjà grande puissance maritime, vient d'offrir un bateau de patrouille au très stratégique archipel des Maldives. Le ministre australien de la Défense l'annonce depuis la capitale, Malé. Les Maldives sont déjà très courtisées par la Chine et l'Inde. À l'agenda du pape ce lundi, une réunion interdicastérielle ainsi que la commémoration du bienheureux cardinal roumain Iuliu Hosu. Cet évêque de l'église grecque catholique a été arrêté en 1948 par les communistes. Pour être resté fidèle au pape, il est emprisonné jusqu'à sa mort. La cérémonie est en cours dans la chapelle Sixtine en ce lundi, jour qui marque aussi les 40 ans de l'encyclique Slavorum Apostolique Saint Jean-Paul II, dédiée à l'œuvre évangélisatrice des saints Cyril et Méthode. Peu de rencontres donc, mais un message au lendemain du jubilé des familles. Le pape s'adresse aux participants d'un colloque consacré à l'évangélisation auprès des familles d'aujourd'hui. Il s'y inquiète du manque d'annonce de la foi envers les familles qui en sont le plus éloignés. Jean-Benoît Harel.
Le Saint-Père a demandé une attention particulière de l'Église pour les familles éloignées de la foi dans un monde caractérisé par une recherche croissante de spiritualité. Léon XIV veut que les évêques, mais aussi les laïcs, invitent ces familles à rencontrer Dieu et fassent connaître la richesse et les dons de l'Église, un lieu de grâce, de fraternité et d'amour. Car sans cela, ces familles s'appuieront sur de faux points d'appui qui les éloignera encore plus de Dieu. Parmi ces faux points d'appui, le pape cite les modèles de vie illusoires où il n'y a pas de place pour la foi, largement diffusée par les médias et les réseaux sociaux. Il mentionne également les jeunes qui préfèrent la cohabitation au mariage chrétien, estimant que ces jeunes attendent un témoignage concret et compréhensif de ce qu'est le don de la grâce sacramentelle et quelle force il donne. Ainsi, pour aller à la pêche de cette humanité, comme dit Léon XIV, ne réduisons pas la foi à un ensemble de préceptes à observer, supplie-t-il. Au contraire, il faut écouter et se faire proche, mais surtout témoigner de l'expérience merveilleuse de la rencontre avec Jésus, qui reste le même hier, aujourd'hui et à jamais.
Jean-Benoît Harel. Ainsi s'achève ce journal. Grand merci de votre écoute et fidélité aux ondes de Radio Vatican. Nouvelle édition demain matin à 8h30 en direct de Rome. Excellente soirée.